Bambachi sur 95,8.
Les territoires de Mitouaba, Pueto et Manono au Katanga ont été longtemps considérés comme le triangle de la mort. Et pour cause, un groupe de Maïmaï, dirigé par le seigneur des guerres, Kiungu Mutanga Gédéon, y régnait en maître. Depuis l'année passée, le chef des guerres Gédéon s'est rendu grâce à l'intervention de la MONUC Lubumbashi. Et au mois de mai 2006, un mandat d'arrêt a été émis contre lui, mais la population de ces trois territoires vit toujours les conséquences de la guerre. Nous allons faire le point avec notre confrère qui est là sur place à Lubumbashi, Paulin Munanga. Vous êtes en ligne, Paulin ?
Oui, hier, je suis effectivement en ligne.
Alors Paulin, pouvez-vous nous donner une petite histoire sur le mouvement Mai Mai de Gédéon ?
C'est vers l'année 2004 que Kiungu Mutanga Gédéon forme son propre groupe de Mai Mai. Avant cela, il faisait partie du groupe de notre seigneur de guerre, Makabe. Gédéon s'installe alors dans les territoires de Manono et mène ses opérations dans trois territoires, à savoir Manono, Pueto et Mitouaba. Selon certains témoignages, Gédéon, qui était chargé des opérations, n'avait pas trouvé son compte lorsque son chef Makabe avait bénéficié d'une assistance. Ces dons de vélo devaient amener Makabe à déposer les armes.
Alors, on a longtemps parlé au Katanga du triangle de la mort. Qu'en est-il au juste ?
Le triangle de la mort comprenait les trois territoires de la province, Manono, Pueto et Mitouaba. C'est ici que Gédéon et ses hommes se sont installés et y régnaient en maître. Des témoignages que nous avions recueillis à l'époque à Manono disaient que les hommes de Gédéon se déplacent de village en village chaque fois qu'ils avaient besoin de rations alimentaires ou qu'ils se sentaient poursuivis par les militaires FARDC. Sur leur passage, ils pillaient, violaient et tuaient. À cette époque, Gédéon avait même été accusé d'anthropophagie ou cannibalisme. Il faut noter que vers l'année 2005, les éléments de Gédéon se sont également installés dans les territoires de Bukama vers le parc Upemba. Je vous propose un témoignage recueilli à Kipushi lors d'une audience.
Gédéon a commis les actes de terreur. Il y a eu beaucoup de déplacés. Et aujourd'hui, les gens ne savent plus trouver quoi manger. Vous allez dans les Mitouaba, les gens ont déserté les lieux. Ils se trouvent très loin de leur milieu. Il y a eu des morts. Il a fait des actes de cannibalisme. Il a mangé les gens. Alors nous voulons que vraiment la justice soit rendue et que les préventions retenues à sa charge sont fondées.
Paulin Munanga, comment est-il arrivé que Gédéon dépose les armes ? C'est par quel miracle ? Par quelle magie ?
J.R. Lungembo, le chef Maïma Gédéon était resté le seul qui causait l'insécurité au centre de la province. Les autres ayant accepté la démobilisation et la réintégration dans l'armée. En 2005, les autorités au niveau provincial engagent des démarches pour les rencontrer et les ramener à la raison. Elles n'ont pas abouti. Un prêtre du diocèse de Manono, accompagné d'un autre chrétien qui avait organisé une mission de bons offices auprès de Gédéon du côté de Mitouaba, avait été tué puis brûlé. Vers le mois d'avril 2006, le bureau de la MONUC Lubumbashi intensifie ses missions de négociation auprès des proches de Gédéon. Le 12 mai 2006, Gédéon arrive à Mitouaba accompagné de certains de ses éléments. Il est accueilli par des militaires béninois de la MONUC. Je vous propose un extrait du reportage en direct qui avait été réalisé ces jours par Paul Kabouba.
Oui, Gédéon ne s'est pas rendu. Gédéon est arrivé pour exprimer sa volonté de déposer les armes. Quand il est arrivé au campement des soldats de la MONUC, situé à près de 5 km de la cité de Mitouaba, il est arrivé en pleine forme, accompagné de sa femme et de son fils, qui doit avoir 3 ou 4 mois. Il est aussi accompagné de près de 150 combattants qui chantaient, et lui, il est entré directement dans la case de purification. Selon son entourage, il devrait se purifier pour que tous les mauvais esprits avec qui il travaillait puissent le quitter. Et il a aussi annoncé qu'il y a également d'autres groupes de ces combattants qui devront arriver dans les heures qui viennent.
Voilà, donc Paulin Gédéon se retrouve aujourd'hui devant la justice à Lubumbashi. C'est vrai?
Oui, effectivement, le 16 mai 2006, c'est un hélicoptère de la MONUC l'amène à Lubumbashi. Il est logé au mess des officiers. Le 20 mai 2006, l'auditorat militaire des garnisons de Kipushi émet un mandat d'arrêt contre Gédéon. Il est accusé, entre autres, des mouvements insurrectionnels, des meurtres, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et terrorisme. Actuellement, le dossier est devant le tribunal militaire de garnison de Kipushi et les victimes demandent réparation. On écoute un des avocats de la partie civile.
Principalement, nous, les parties civiles, nous attendons la réparation de tous les préjudices que les actes de Gédéon ont causé, disons, à toutes les victimes que nous représentons. Voilà ce que nous poursuivons, nous, d'abord la réparation, mais à titre préventif, nous souhaitons que dans le cadre du droit international, qu'on puisse prévenir les actes de la même nature que les actes posés par Gédéon. Voilà, et brièvement, ce que nous attendons, dans un premier temps.
Alors, quelle est la situation de Mitoba, par exemple, après le départ de Gédéon? Est-ce que tout est devenu calme? La vie continue? C'est quoi exactement?
La situation est généralement calme. Plusieurs Maïma qui combattaient aux côtés de Gédéon ont été démobilisés et sont retournés dans leur village d'origine. Mais la réintégration n'a pas été aisée pour eux. Les populations voulaient se venger, car ils reconnaissaient parmi eux des bourreaux qui auraient soit tué un membre de la famille ou encore auraient pillé leurs biens. Certains anciens Maïmaï ont même été obligés de créer leur propre village parce qu'ils n'étaient pas acceptés, quelle que soit la campagne de sensibilisation qui avait été organisée par l'administrateur du territoire de Mitoba.
Voilà, donc nous allons nous arrêter là, hein, Paulin. Le temps peut-être de donner la parole à notre invité d'aujourd'hui, donc dans la chronique Benevolentia, Marcel Ouetio-Ponda, chargé des programmes à Global Right. Merci, Paulin Moulanga, et à la prochaine.
Merci, Zir Lungembo, à la prochaine.
Cœur de votre journée.
Maman Nicole Wana Kutuna Puye Yombala Moko.
Je savais, nous avons une grande communauté congolaise en Belgique.
Na Bomelibino et Lubo Abengimingi Pondu et Limbondo.
Offrez-vous une pause au Kapi Mama sur Radio Okapi. Découvrir les femmes congolaises, mieux connaître ses droits, partager le rire des enfants, s'éduquer avec Prof Okapi. Confiez-nous vos après-midi de 12h à 15h lors de Kinshasa avec Françoise Moukoukou sur Radio Okapi. Okapi Mama, pour vous faire plaisir.
Marcel Ouetio-Konda, chargé des programmes Global Right en République démocratique du Congo. Bonjour.
Bonjour, cher.
Voilà, donc vous êtes avec nous aujourd'hui dans cette chronique La Benevolentia. Vous avez suivi les points que nous venons de nous faire Paulin Moulanga. En quoi la justice est-elle importante dans le processus des guérisons du traumatisme des criminels?
Merci beaucoup. J'aimerais d'abord préciser que j'interviens à cette émission non pas comme chargé de programme de Global Rights, mais comme avocat, comme défenseur des droits de l'homme. Je pense que la justice revêt une importance capitale dans le cadre de la réparation de traumatismes nés à la suite des commissions des crimes en général et des crimes internationaux en particulier. Dans la mesure où, comme vous l'avez suivi, à travers leurs conseils, les victimes ont exprimé leur désir de pouvoir être indemnisées. Et à cela, ils ont ajouté le fait qu'ils aimeraient, elles aimeraient qu'il n'y ait pas répétition des crimes dont elles ont été victimes. Ça veut dire donc que la justice présente un intérêt capital du point de vue des victimes. Mais je pense que la justice présente aussi un intérêt du point de vue des bourreaux, comme vous les avez appelés, dans la mesure où, et là je peux noter un élément, c'est que les membres de l'équipe de Gédéon qui ont tenté de réintégrer la société ont éprouvé beaucoup de difficultés pour le faire parce qu'ils se sentent menacés. Et donc, il n'y a que la justice pour pouvoir faire en sorte que ces gens-là puissent vivre en tout ce qui est dans la société, évidemment en ayant répondu de leurs actes.
Mais imagine que ça, si ça aurait été une justice collégiale, c'est-à-dire Gédéon et ses collaborateurs, ça pourrait peut-être avoir eu un impact. Mais le fait qu'on a mis en exergue simplement Gédéon et les autres abandonnés à leur triste sort, c'est ainsi qu'il y a eu de telles représailles.
Bon, écoutez, l'œuvre de la justice, elle se fait suivant un processus. Hein. Il faut laisser à la justice le temps de faire son travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tête d'affiche dans le cadre de ce projet, de ce procès, je voulais dire, c'est Gédéon, mais l'instruction continue. Hein. Il n'est pas exclu que du jour au lendemain, quand on aura récolté suffisamment d'éléments par rapport aux autres coéquipiers de Gédéon, des actions puissent être engagées à leur charge.
Mais entre-temps, il faudrait quand même sécuriser ces personnes, parce que la représaille, les cycles de violence en attendant que cette justice soit totalement faite, je crois que ces collaborateurs de Gédéon risqueraient peut-être de perdre aussi leur vie, et là la justice, même si elle intervenait 25 ans plus tard, il n'y aura plus un impact.
Tout à fait, ça veut dire que il faut dire que dans cette affaire chaque institution doit jouer son rôle. La justice, dans la mesure où elle a engagé à ce jour de poursuites à charge de Gédéon, elle devait poursuivre son travail, mais il y a aussi l'administration qui doit veiller à ce que ceux qui ne sont pas encore traduits devant la justice aujourd'hui puissent vivre en sécurité.
Alors comment expliquez-vous qu'un criminel puisse être blessé psychologiquement par ses propres actes ?
Il faut dire que c'est vrai, cette question mérite d'être posée dans la mesure où pendant longtemps, on a eu en vue les droits de la victime. Hein. On s'est dit, voilà, elle a subi un dommage, elle a droit à réparation, tout ça. Et on n'a peut-être pas fait suffisamment attention à la situation de l'auteur présumé de l'infraction. Vous savez, il n'est pas facile qu'on arrive à commettre une infraction. Il y a ce qu'on appelle le schéma du crime qui se ramène à un certain nombre d'éléments. Il y a d'abord, on peut relever le projet criminel. Avant de commettre une infraction, vous concevez d'abord le projet de commettre cette infraction. Et ensuite, il faut que vous arriviez à prendre la résolution de commettre effectivement cette infraction. Et en dernier lieu seulement, vous allez passer à l'exécution. Et je vous dis, ce schéma-là, il n'est pas facile que l'on puisse le poursuivre jusqu'au bout, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui s'interposent. Il y a la conscience, il y a la peur du policier, il y a la peur du militaire, qui font que on n'arrive pas toujours. Nous sommes tous des criminels à puissance, mais pour ces différentes raisons, nous n'arrivons pas à commettre les infractions. Mais alors, lorsque quelqu'un est arrivé à commettre l'infraction, il a franchi ces différentes étapes du processus criminel, je pense que la première victime de cette infraction, je ne peux pas choquer l'opinion, mais je veux dire que cette personne elle-même, elle subit le contre-coup de l'infraction qu'elle a commise. Comment cela ? Eh bien, on a vu par exemple des gens commettre l'infraction et après coup, elles se rendent compte que elles ne savent pas comment elles en sont arrivées là et elles se donnent la mort à elles-mêmes. Ça veut dire que l'infraction que ces gens ont commise, eh bien, ça ne les a pas laissés indifférents. C'est une infraction qui a eu un retentissement dans leur fort intérieur.
Ça me pousse à revenir sur le point que venait de me faire Paulin Moulanga. Là où nous avons vu Gédéon, avant d'aller en justice, elle fait une purification. Ben, c'est comme si c'est une question de reconnaître ses fautes, ses torts, ou carrément ça le faisait très mal au cœur.
Oui, je pense que vous avez raison de voir les choses de cette manière-là. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui commet les infractions en série et tout, et le moment venu, il se rend devant la justice. Alors qu'on se serait attendu à ce qu'il soit traqué et qu'au finalement réduit dans tous ses retranchements et on mette la main sur lui. Mais si c'est lui qui fait le premier pas vers la justice, je pense que cela devrait attirer notre attention sur le fait que quelque part, dans sa conscience, c'est un homme qui n'est pas tranquille. Et donc, il a besoin d'une prise en charge psychologique à ce niveau-là. Et l'administration de la justice devait être conciliée avec ce besoin de prise en charge psychologique qu'il manifeste de manière très, très claire.
Oui, Marcel Wetchi Okonda, nous rappelons que vous êtes avocat. Donc, vous êtes de Global Rights, mais vous intervenez ici en tant qu'avocat. Disons, quand quelqu'un se rend comme ça, d'aucuns diront peut-être... quand il s'agit d'une personne qui pose un acte inconsciemment, ça peut aller. Mais de l'autre côté, s'il s'agit de la conscience, c'est-à-dire je veux commettre une violence et j'essaie, je m'en tiens aux tenailles et les aboutissants, ça, ça n'est une autre.
Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener quelqu'un à commettre une infraction. Ça peut être parce que...
Consciemment, j'ai dit.
Oui, mais la conscience, elle n'est pas toujours ce que nous imaginons. Elle peut connaître des cas d'affection. Ça peut relever des différentes maladies psychologiques ou neurologiques qu'on connaît. Généralement, lorsque quelqu'un commet des infractions comme celle-là, eh bien, il agit sous le coup de l'émotion. Ou alors, vous connaissez l'expression en français, on dit c'est quelqu'un qui agit dans un état, qui est dans un état second. Et donc, après qu'il ait commis l'infraction, il y a toujours un moment de lucidité qui arrive. Et en ce moment-là, il essaie de prendre la mesure des actes qu'il a commis et il n'arrive pas à les supporter lui-même.
Alors, pourquoi la loi prévoit-elle des droits pour un auteur des crimes de guerre? Et comment ces droits impactent-ils sur les comportements du prévenu? Et comment cela contribue-t-il à la prévention des futures violences?
Alors, il faut dire que la loi, le droit prévoit des droits non seulement au profit des victimes, en fait des auteurs de crimes internationaux, mais aussi de tous les criminels, entre guillemets. Et je pense que si on veut bien comprendre cette notion, il faut nous renvoyer à ce qu'on appelle le droit à un procès équitable. Vous savez, tout à l'heure là, dans l'exposé qui a été présenté, on a vu un tableau se dessiner très clairement où on voyait d'une part la justice d'État telle qu'elle fonctionne aujourd'hui avec les cours et tribunaux et d'autre part la justice privée. La particularité de la justice privée, c'est qu'elle n'a pas le temps à perdre par rapport au droit au procès équitable et tout le reste. Mais la justice d'État, elle est organisée. Autant elle reconnaît de droits au profit de victimes, autant elle reconnaît également de droits au profit de bourreaux. Et à la base de tout cela, il y a un élément fondamental, c'est le principe de la présomption d'innocence, qui veut que tant qu'une personne n'est pas convaincue d'avoir commis une infraction par un jugement définitif prononcé par une juridiction compétente, eh bien cette personne, il faut la considérer comme une personne innocente. Par voie de conséquence, il faut lui reconnaître le droit de se défendre, il faut lui reconnaître un certain nombre de droits qui relèvent de ce que j'appelais tout à l'heure le droit au procès équitable.
Oui, mais le cœur de l'homme est tortué, ça on le sait. Qu'est-ce qui nous garantit que une justice, disons juste, oui. Permettez-moi la tautologie, une justice juste peut-elle prévenir la revanche et aussi garantir une certaine réconciliation?
Vous savez, lorsque la justice a été réalisée comme il se doit, eh bien, en ce moment-là, la personne qui est convaincue d'avoir commis une infraction, elle réalise elle-même les mal qu'elle a fait, elle n'a pas de prétexte à avancer par rapport à sa condamnation, et là, ça marche. Mais lorsque vous avez été condamné, parce que vous estimez que le droit n'a pas été bien dit, que vous avez été victime d'une injustice, eh bien, soyez-en rassurés, l'injustice, elle appelle toujours la violence, et c'est ce qui fait qu'on s'installe dans un cycle de violence qui n'en finit pas. Donc, on n'a pas besoin de la justice, de la vengeance, pour consolider la paix dans une société.
Donc, ce qui disent la loi, ce qui disent le droit, doivent le faire avec beaucoup de dextérité, beaucoup de sérieux, d'ailleurs.
Absolument, absolument, parce que c'est vrai que l'œuvre humaine est toujours imparfaite, mais c'est un idéal auquel on doit s'accrocher absolument. Il faut que le droit soit dit comme il se doit, il faut que la justice fonctionne de manière, je dirais, harmonieuse, pour que les personnes qui sont déférées devant cette justice ne puissent pas trouver de prétexte à leur condamnation, parce qu'en ce moment-là, eh bien, on n'en sort pas, il n'y a pas de voie de sortie.
Alors comment pourrait-on amoindrir les peur des criminels de comparaître à la barre et donc les encourager à avouer, parce que c'est pas facile hein, d'amener un personnage tel que Gédéon à arriver d'abord et commence par se rendre et ensuite accepter volontiers de se présenter devant la barre.
J'aimerais peut-être répondre par ce qu'il ne faut pas faire hein, et ça nous permettra de Dieu dégager ce qu'on doit faire. Là je me rapporte à une affiche d'Amnesty International dans laquelle on voit un juge à l'intérieur d'une salle d'audience et il s'adresse au prévenu qui entre dans la salle d'audience. Il lui dit, écoute monsieur, tu peux entrer parce que rassure-toi, ta condamnation à mort sera équitable. Ça c'est la meilleure façon de dissuader les auteurs présumés des infractions, n'est-ce pas, de collaborer, de coopérer avec la justice. Mais ce qu'il faut faire maintenant c'est quoi? Il faut que cette personne-là sache qu'elle ne sera pas à son tour victime d'une injustice,
que la justice va fonctionner de manière régulière, que tous ses droits en tant qu'auteur présumé de l'infraction seront respectés. En ce moment-là, la personne peut se prêter au jeu judiciaire. Mais si ces conditions minimales ne sont pas réunies, soyez-en rassurés, autant mieux continuer à commettre d'autres crimes pour sa propre protection que de se livrer à la justice, parce que dans tous les cas, avant même que la procédure ne puisse suivre son cours normal, on connaît le sort qui vous est réservé.
En quoi ce que vous dites, Monsieur Marcel Wetch Okonda, c'est comme si la reconnaissance des crimes, le remords et la culpabilité par les bourreaux eux-mêmes, peut avoir l'impact sur sa vie, sur sa victime et celle de la société également.
Oui, il faut dire que la reconnaissance de crime a une vertu thérapeutique, aussi bien pour l'auteur présumé de l'infraction ou pour l'auteur de l'infraction, dans la mesure où elle a reconnu et que ce n'est pas un aveu de complaisance, pour la société, mais en même temps aussi pour la victime. Prenons en ce qui concerne l'auteur de l'infraction. Eh bien, je disais tout à l'heure qu'il peut arriver qu'après la commission d'une infraction, une personne ne soit pas tranquille avec sa propre conscience. Mais lorsque cette personne-là est passée aux aveux et que justice a été rendue, eh bien, cela a paradoxalement le fait de permettre à cette personne-là de pouvoir être tranquille avec sa conscience. Il y a une espèce de thérapie psychologique qui intervient à ce niveau-là. En ce qui concerne la victime, il y a aussi des effets bénéfiques. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'au fait, aujourd'hui, la matière de droit des victimes, elle est assez développée. On reconnaît à la victime, entre autres, le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation. Et réparation ici entendu dans son sens large, c'est pas seulement la réparation en termes d'indemnisation ou réparation financière, mais aussi réparation en termes de garantie de non-répétition des crimes, réparation en termes de reconnaissance des préjudices que cette victime a subi. Et donc, lorsque on est dans une situation telle que les crimes ont été reconnus, les crimes connus ont été reconnus, eh bien, il y a aussi une espèce de thérapie psychologique dans le chef de la victime.
On va suivre une conclusion qui nous est proposée par Marcel Kankou autour de cette question.
Après des violences identitaires ou ethniques, beaucoup de victimes ou survivants souhaitent que leur bourreau soit torturé ou tué, car en les voyant souffrir, ils pensent que leurs souffrances seront apaisées. Ceci est la vengeance. Or, la vengeance ne peut pas ramener à la victime tout ce qu'elle a perdu. La vengeance crée seulement plus de violence et aggrave encore les blessures psychologiques, car celui qui se venge devient à son tour un bourreau. C'est ainsi qu'on crée le cercle vicieux de la violence. Par conséquent, c'est la justice qui devrait punir les bourreaux et non les victimes elles-mêmes. Une justice qui offre une assistance judiciaire et légale aux bourreaux peut leur permettre de mesurer le degré de cruauté de leurs actes. Cela peut leur donner un sentiment de culpabilité, de honte et de peine. Pour la plupart des victimes, il est difficile d'accepter qu'une assistance soit offerte aux bourreaux, mais sans cette assistance, les auteurs des crimes ne prendront pas conscience de leurs actes ni de leur agressivité et continueront à perpétrer les mêmes horreurs. Il est important que les auteurs des crimes sachent que une assistance judiciaire leur est proposée pour les encourager à avouer leurs crimes sans mettre en danger leur propre sécurité ou état psychologique. Souvenons que une faute avouée est à moitié pardonnée.
Encore faut-il une assistance juridique très très correcte et très importante.
Absolument, absolument, parce que d'abord il faut relever que le crime c'est un acte humain. Et lorsqu'on parle de l'homme, ça fait plusieurs dimensions à la fois. C'est une dimension physique, psychologique et tout le reste. Et donc, lorsqu'on juge un homme, il faut tenir compte de cet ensemble-là. Comment est-ce qu'il est arrivé à commettre l'infraction? Et lorsqu'on administre la justice, il faut tenir compte de ces différents paramètres. Malheureusement, chez nous, il faut le reconnaître, l'avocat, c'est à lui que revient le soin de prendre en charge même les problèmes d'ordre psychologique qui se manifestent auprès de son client. gens. Mais je pense qu'on devrait vraiment faire un effort pour prendre en charge psychologiquement l'auteur de l'infraction. De la même manière, la victime, elle arrive souvent à l'audience traumatisée, elle veut être indemnisée, obtenir réparation tout de suite, et il faut donc pour ces deux protagonistes du procès pénal une assistance non seulement juridique, mais également une assistance psychologique.
Le niveau psychologique, donc, c'est-à-dire un travail psychologique considérable au niveau de la justice, afin de pouvoir dégager une voie de sortie. Nous disons merci à Marcel Witch Okunda, chargé des programmes à Global Rights. Aujourd'hui, vous intervenez dans la rubrique, dans notre chronique La Bénévolité en tant qu'avocat. Merci de nous avoir apporté tous ces éléments et on se retrouve très prochainement.
Merci.
JR, je crois qu'on a fini là, on va dire. Donc merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, qui nous ont aidés à réaliser cette émission, notamment à Eddy Merkis, ainsi que Jeudi Kachama, sans oublier Marcel Ngombo qui était à la coordination. Le prochain rendez-vous avec Okapi Action, c'est demain à la même heure, c'est-à-dire de 9h à 12h, heure de Kinshasa. Dans un instant, vous aurez droit au point de l'actualité, hein, tout à l'heure avec Jacques Matande, et puis juste après, rendez-vous avec Okapi Mama. Donc pour nous, c'est fini, on se retrouve demain à la même heure. Au revoir.